France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Mozart Obeskite, née en Lituanie. Je suis pianiste, concertiste.
Mozart, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes donc né en Lituanie, pas à Vilnius, un petit village qui se trouve à environ 100 km de Vilnius.
Je suis né à Kaunas, qui est deuxième ville de Lituanie et qui était capitale à un moment donné de notre histoire. Donc c'est une ville qui rivalise avec Vilnius et où ma famille habitait.
C'est un lieu où la nature est importante. La Lituanie, quel a été cet environnement de l'enfance? C'était une maison. Quel souvenir vous avez de ce lieu?
Oui, c'était une maison. Ça ressemblait à un village, puisque c'était sur une grande colline qui s'appelle Žalias Kalnas, la colline verte. Donc il y avait la végétation, il y avait les potagers, il y avait les arbustes fruitiers. Et Kaunas est sur l'eau, sur le croisement des deux rivières, donc c'est très pittoresque, c'est une jolie ville.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Lituanie de la fin des années 50? Enfin, vous avez été, votre enfance, c'est dans les années 60 en Lituanie. Oui. Quel paysage politique c'était? Comment se passait l'enfance en Lituanie à l'époque? Quel était le climat qui régnait?
Je suis née à Kaunas, mais ma famille a déménagé à Vilnius. D'abord, mon père était pris à l'Opéra National, qui se trouvait à Vilnius. Et donc, toute la famille a aménagé à Vilnius. Ma grand-maman, ma tante, ma mère et moi. Si on parle des choses personnelles, ma maman se séparait de mon papa quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai grandi, j'ai vécu entourée des trois femmes. La vie pour ces femmes-là était très difficile, puisqu'on habitait dans la vieille ville, dans les très, très jolis appartements, avec les magnifiques hauts plafonds et les vieilles pierres. Cependant, il fallait se chauffer avec le charbon, il fallait chercher la nourriture, il n'y avait pas, il avait les petits cartons d'approvisionnement. Mais je n'ai pas senti la misère, si vous voulez. Puisqu'il faisait tout pour que je ne le ressente pas. J'étais toujours extrêmement bien habillée, j'étais toujours très bien nourrie, des choses exquises. Je ne sais pas comment il dénichait les merveilleuses choses. Et la maison était très belle, à l'image d'origine de ma famille, qui est une famille noble. Et on était vraiment bien punis à cause de nos origines par le régime soviétique. Mais à la maison, il avait les objets, il avait le désir de décoration, il avait toujours un goût de luxe, même si les poches étaient vides. Et je me sentais différente et je me sentais bien, même dans ce monde sauvage soviétique.
Thank you. Et vous êtes né dans un environnement qu'on va dire favorable à la musique et à la culture. Vos parents aimaient particulièrement la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette famille qui était, je crois, tournée vers les arts ?
Ça vient de loin, en fait. Il y a la branche de ma maman et là la branche de mon père. Mon père, c'est un nouveau dans l'art et dans la musique, car il était juriste de métier et il a pris le risque de changer son métier à l'âge de 33 ans, puisqu'il avait depuis la naissance très belle voix. Mais il n'avait pas d'éducation musicale. Donc il est entré au conservatoire à 33 ans chez le meilleur chanteur ténor lituanien Kipras Petrauskas, qui était très très connu en Lituanie et en Russie aussi. Et il est devenu chanteur d'opéra à 40 ans. Et grâce évidemment aux connaissances musicales de ma maman, qui lui a énormément aidé de devenir musicien professionnel. Et ma maman et sa sœur étaient mes plus grands professeurs. Et ce sont les deux dames qui ont étudié la musique chez plusieurs maîtres. Ma tante a étudié chez une élève de Scriabine. Donc la musique de Scriabine était dans ma maison, comme si c'était la maison de mon grand-père, je dirais. Aussi la musique de Tchoulonis, évidemment, puis tant d'autres. Il avait plusieurs professeurs allemands, polonais, russes qui passaient pendant la guerre en Lituanie. Et ma maman et ma tante couraient tout de suite étudier chez eux. Elles étaient très curieuses et voulaient savoir plus possible sur l'art musical. Si on va plus loin dans le passé de ma famille, mon grand-père était mathématicien, mais il était musicien amateur. Il jouait très bien piano et il était aussi chef d'orchestre, chef de chœur. Donc, il dirigeait les ensembles amateurs. Ma grand-maman chantait, donc il a les racines très profondes de la musique.
Écoutez, Mouza, un document de votre maman jouant du piano, jouant une œuvre de Scriabine. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce document ? Est-ce que vous savez à peu près de quand il date ? Quel âge elle avait ? Et ça en dit beaucoup aussi, effectivement. Vous disiez que Scriabine était à la maison. C'est sans doute aussi comme ça, votre premier lien avec cette musique russe ?
Tout à fait. C'est une prélude de Scriabine que ma maman a enregistrée à la radio. Il avait beaucoup d'enregistrements. J'ai récupéré quelques-uns. Et ça date avant ma naissance. Et, bah, je suis née quand ma maman avait 28 ans. Donc ça doit être un peu avant. Ma maman, à l'opposé de ma tante, elles étaient très très différentes, ce qui était très bien pour moi, je crois. Parce que j'ai vu deux approches de la musique différentes. Ma maman était de la souche fébrilité romantique, je dirais. Ces rubato absolument uniques dans Scriabine étaient très très compréhensibles pour elle. les professeurs chez qui elle étudiait, qu'elle choisissait comme maître, étaient toujours les professeurs avec la perception de musique comme le sommet d'expression des sentiments. Donc, pas forcément la forme, pas forcément le ratio, pas forcément l'intellect, mais la sensibilité, la couleur, la respiration, comme si on parle, comme si on chante.
Et votre tante, vous dites, elle est très différente de votre mère, donc c'était un jeu plus formaliste, plus intellectualisé, c'était un piano plus allemand peut-être ?
Exact, plus allemand. Le répertoire préféré de ma tante était toutes les classiques de Vienne, aussi musique baroque, aussi Scarlatti, tout ce qui est digital, tout ce qui est dessin, tout ce qui est structure, tout ce qui est le rythme. Donc ça c'était un peu le conservatoire à la maison. Et quand j'ai recevé les conseils de ma tante ou ma mère, j'ai recevé toujours les conseils opposés.
Il fallait choisir.
Il fallait choisir et l'arbitre était ma grand-maman, qui était juste une femme normale, qui était femme au foyer, mais qui chantait très bien, qui était très musicienne, et qui disait « Attends, mais tu connais mieux, laisse tomber, c'est folle, laisse tomber. »
Грожі свої на ірвайні ширі. Ірушка ожі дрінок те, мінута вя, юкня манта в огро. Плаки. Няман жвайждес мено, ірмінтіс, о няман, іршвеса, курі плавке першал тас волас, куря йдяй мантуш. Гелялю роса і раук синяй токой тесяям твандяну.
Les grands entretiens de Mouzard Roubasquité, France Musique.
Et l'autre document que vous nous avez fait écouter, c'est votre père qui chante la musique de Tchaïkovski. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette voix et de ce document aussi ?
Oui, c'est la nuit de Tchaïkovski, la romance. Lui, il le chante en lituanien. Je suis aussi fascinée par cette expressivité. Déjà, c'est une très belle voix. Mais c'est très expressif, je trouve. Il y a les couleurs de la voix. Et je me retrouve dans l'esthétique, dans ce qu'elle fait ma mère, dans cet enregistrement que je vous ai fait écouter, ou mon père dans ce romance, qu'il chante d'ailleurs accompagné par ma maman. Les virgules, les respirations, la flexibilité, les couleurs. Je cherche toujours l'expression vocale, l'expression des paroles quand je travaille mon piano aujourd'hui.
Il existe un document de télévision où on vous voit toute jeune, toute mignonne, avec un nœud dans les cheveux, en train de jouer du piano. Vous vous souvenez de ce moment ? La télévision était venue filmer chez vous ? Comment ça s'était passé ?
Je me rappelle très bien. C'était ma première année à l'école des enfants sourdoués. Ils sont venus dans notre classe et nous ont demandé chanter, jouer. Et ils m'ont choisi en disant « on va faire un film sur toi ». Donc j'étais évidemment très fière, très flattée. Je me sentais une vraie star de cinéma. D'autant plus que ces films, ces petits documentaires, étaient montrés pendant quelques mois dans tous les cinémas de la ville, avant les vrais films. Donc un mois durant, dans tous les cinémas, à chaque heure, c'était toujours ce petit film sur moi. Alors au bout de certains temps, je suis comme ça devenue vraiment enfant assez célèbre. On me demandait chanter, jouer à la télévision, je composais. Et la vie était très, très, très excitante. Je n'avais pas de temps de jouer avec les poupées ni avec mes copines. Mais j'ai joué vraiment la vraie vie.
Mūza atostogų įspūdžius perkelė į savo sukurtą kompoziciją. Haidno koncertas. Tik keli muzikai pasaulyje, būdami 7 metų, grojo šį koncertą.
Faire un peu de corde à sauter, mais on sent que le plus important, c'est le piano. On y entend un concerto en ré majeur de Haydn. On vous entend composer. Vous dites que vous êtes entré assez vite dans une école pour enfants surdoués. C'était quoi, une école pour enfants surdoués? Ça
existe même aujourd'hui, mais c'était le système soviétique. Donc chaque république soviétique, dans chacune des 15 républiques soviétiques, il y avait l'école de danse, des arts et de la musique pour les enfants exceptionnels. Et on les détectait à l'âge de 6 ans. Donc il avait les examens d'entrée, il fallait chanter, il fallait montrer le rythme, il fallait répéter plein de choses, il fallait montrer les mains et la commission décidait pour quel instrument ses mains sont bonnes. Et puis cette école éduquait les enfants vraiment avec la manière très 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 ciblée pendant 11 ans. Donc, on commençait à vraiment sérieusement, professionnellement apprendre la musique à l'âge de 6 ans. Et à 12 ans, il avait la purge, si on peut dire, pour ceux qui réussissaient plus. Ils étaient envoyés ailleurs. Et puis à 15 ans, encore une autre, et ainsi de suite. Donc, c'était quelque chose sérieux, déjà à 6 ans. C'était une école où enseignaient ma mère et ma tante. Et il avait aussi les danseurs, il avait aussi les peintres, donc c'était l'ambiance assez unique. Et en plus, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient visiter cette école. C'était un peu démonstration d'éducation de haut niveau pour les soviets. On jouait toujours pour ces étrangers, on était la vitrine soviétique. Et j'étais énormément sollicitée pour jouer, pour montrer, pour... J'avais une grosse expérience de scène déjà depuis très jeune âge.
Et si on revient sur la politique, c'est un peu tout le paradoxe du régime communiste, parce qu'à la fois vous nous dites que votre famille était persécutée par ses origines, à cause de ses origines nobles, et à la fois le régime vous soutenait musicalement, vous mettait en avant et revendiquait aussi les talents de son pays et la jeunesse musicale de son pays.
Oui, il faut savoir que les soviets voulaient construire l'homme nouveau, donc mon grand-père était ennemi de peuple, ma maman aussi. À un moment donné, une partie de ma famille était déportée, ma famille directe se cachait et échappait aux rafles soviétiques. Mais moi, comme enfant, j'étais justement un bon modèle pour être un homme nouveau. Voilà, quelqu'un qui commence la doctrine soviétique et qui va suivre cette voie jusqu'au bout.
Vous pensez que c'est ce qui vous a sauvé aussi, quelque part, de ce tourment du milieu du XXe siècle, la musique?
Oui, la musique d'abord a sauvé ma famille de déportation. Elle avait une histoire, ma tante, comme je vous ai dit, elle a enseigné à la maison, et elle avait quelques enfants très doués, notamment une fille d'un grand commissaire soviétique qui dirigeait les déportations. Et un jour, elle a dit, écoutez, autour de nous, tout le monde est déporté, est-ce que nous sommes sur la liste? Elle a dit, je vais voir. Donc il est revenu, c'est le papa d'une élève, donc encore à travers la musique. Il est revenu le lendemain et a dit, vous y étiez, mais vous n'êtes plus.
Et à 7 ans, vous avez joué le concerto de Haydn avec l'orchestre philharmonique de Lituanie sur scène. Vous vous souvenez de ce moment?
Complètement, là, oui. J'ai les photos, je n'ai pas d'enregistrement, mais j'ai les photos avec le grand chef, Saul Sondetsky. C'était la salle de philharmonie nationale. Et c'était un événement. Mais c'est vraiment intéressant vivre la vraie vie déjà en étant enfant. Je crois que chaque enfant devrait commencer à vivre plus tôt. Je ne sais pas, on me dit souvent, ouais, tu n'as pas eu l'enfance. Moi, je crois que j'ai eu l'enfance absolument fabuleuse.
Enfant prodige, Mozart Rubaschitté a rencontré très tôt l'univers de Franz Liszt. Et c'est ici avec une étude de concert que nous quittons aujourd'hui la pianiste lituanienne. Nous la retrouverons demain au Conservatoire de Moscou. Cette émission, que vous pouvez d'ailleurs podcaster sur le site des Grands Entretiens, a été réalisée par Gilles Blanchard avec Raymond Albuy, Valérie Lavalard et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.